Un vent hivernal parcourt le secteur HB64 en ce début de soirée. Le soleil se couche déjà, laissant l'eau givrer sur les façades. Je suis à l'hôpital, celui-là même dont j'ai visité la morgue il y a une semaine. Je referme la fenêtre de la chambre de mon père. Lui est allongé dans son lit, adossé au mur contre l'oreiller. Comment ça va depuis hier ?
Ça va. Je me dis que ça pourrait être pire.
Les éclats de verre l'ont atteint aux mains et au visage, et sa cheville droite s'est brisée en touchant le sol. Les dégâts physiques sont somme toute minimes. Ce sont ceux psychologiques qui lui valent sa convalescence. Il a revu sa vie dans les moindres détails. Il était persuadé qu'elle s'arrêterait quand il toucherait le sol. Les deux autres n'ont pas ressenti ce traumatisme. Ils ne sont pas humains ou n'en expriment pas les sentiments. Lui a craint pendant 1500 mètres, bien plus que les deux fois dans sa carrière où il s'est fait tirer dessus. Il n'en revient pas d'être toujours de ce monde. Plusieurs jours lui seront nécessaires pour accepter la réalité. Peut-être ce délai suffira-t-il à Eric Telvi pour prendre une avance décisive sur cette affaire. Depuis 24 heures, cela ne lui importe plus. Le regard dans le vide, il demande.
Pourquoi est-ce qu'il m'a sauvé la vie ?
J'en sais rien.
Pourquoi elle a rendu l'inspectrice amnésique ?
Je sais pas, moi. Elle devait en savoir trop.
Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien savoir de trop ? Ça colle pas à cette histoire.
Il s'agace, épuisé par tant de complexité. Il rajoute en soupirant.
On est dépassé, Thomas. La haine ne fait plus face.
Dépassé comment ?
Technologiquement, intellectuellement, militairement. Tous les événements de ces derniers jours sont la conséquence du retard considérable qui se creuse entre nous et les érudits.
T'en fais pas un peu trop, là ? Ils sont quelques-uns à fabriquer des androïdes, surévolués, d'accord, mais ça vous met pas à la traîne pour autant.
C'est pas pour rien qu'on n'a jamais réussi à copier Prox. Ils ont plusieurs dizaines d'années d'avance sur nous, et nos services sont truffés d'agents infiltrés. Il y a tellement de fuites qu'ils sont au courant de nos moindres gestes. Ça va mal. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais ça va très mal.
Je garde le silence, mal à l'aise. Il reprend.
On raconte que l'armée des cinq est touchée par des mutineries dans les détachements de Tripalium d'Artemia de l'archipel. Quand on sait que les directeurs des autorités des trois mégalopoles ont été renouvelés ces deux dernières années, il y a de quoi s'inquiéter.
Vous les soupçonnez ?
Officieusement, évidemment. Ils ont été blanchis, mais ils ont toujours trempé dans des affaires suspectes. Tu imagines si des personnes comme ça arrivent au sommet de nos villes, le système est pourri de l'intérieur.
Un autre silence passe.
Garoyle Rent, le directeur des autorités de Logos, met sur la sellette. Un numériste, Elvie et moi, sommes les derniers à tenir tête. Hector Nova est de notre côté, mais il a son lot d'histoires louches aussi. T'as rien qu'à voir, mademoiselle Dissidia. Personne ne sait d'où elle sort. Aujourd'hui, on me dirait que c'est un androïde, ça ne m'étonnerait même plus. Je préfère même pas penser à ce qui se passera si l'armée des cinq tombe entre les mains des érudits.
Je tente de le rassurer, bien que touché par sa détresse. Tu broies du noir. Il y a encore du monde sur qui tu peux compter.
Peut-être, oui, peut-être. Tiens, ça me fait penser.
Il active son communicateur.
Léon, vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît ?
Il raccroche. Je l'interroge du regard.
Tu vas avoir besoin d'une protection tant que je serai à l'hôpital. Je suis désolé.
Quoi ? Je n'ai pas le temps de protester qu'un homme grand et mince ouvre la porte. Il a la cinquantaine. Il se tient droit, le regard posé et le visage calme. Son crâne est dégarni et des rides commencent à se creuser. Malgré les signes du temps, il dégage un charisme qui ne laisse pas douter de son efficacité. Ses pouces, protégés par des gants noirs, sont rangés dans sa ceinture à laquelle un holster accueille une arme de poing.
Bonjour Thomas.
Bonjour. Mon père enchaîne sur les présentations.
Léon Dertuzzi, un collègue de longue date.
Je me ferai discret.
Il a l'habitude de ce genre de cas et c'est un expert en combat rapproché. Tu ne peux pas être entre des meilleures mains.
Mon père voit en lui une protection contre la menace de Proxy. Pour ma part, si Mademoiselle Dissidia ne parvient pas à enrayer les actes de l'androïde, je doute qu'il y parvienne. Par-dessus tout, la dernière chose que je demande en ce moment est d'être suivi par un étranger comme par mon ombre, et ce à longueur de journée. Je me résigne, dépité. Ma seule envie est qu'il nous quitte déjà. En tendant la main, je lui lance. Enchanté ! nous faisons connaissance sur le chemin de l'appartement. Probablement pour me rassurer, il m'énumère ses précédentes expériences en tant que chargé de sécurité. Il a travaillé pour de nombreuses personnes, dont Seul Thane, le maire de Numéris lui-même. Ses capacités ont été prouvées maintes fois, et ses services sont d'autant plus appréciés qu'il sait quand se mettre en avant et quand s'effacer. Cela, je le constate moi-même lorsqu'il se plonge dans le silence aux commandes de son bolide. J'en profite pour m'isoler dans mes pensées. Allegas, 66. Ces mots résonnent dans ma tête depuis la fuite de Proxy. Que ce soit dans le passé ou dans le présent, tout me ramène à cette tour. Elle est la seule piste qui puisse m'éclairer sur la mort de Ghislain et sur les meurtres de l'université, et m'en apprendre assez pour aider mon père. Toutefois, tant que tous les indices convergeront vers mon ami défunt, il est hors de question que Léon ou qui que ce soit d'autre découvre cet endroit. Nous entrons dans le parking sous l'appartement. Il laisse la voiture, puis nous nous dirigeons vers l'ascenseur. Lorsque, un peu plus tard, les battants s'ouvrent sur le vestibule, il déclare.
Je tiendrai la garde devant l'entrée. Si tu as une chaise ou un fauteuil pour la nuit, ça fera l'affaire.
Même pas un matelas. Je dois avoir ça, si vous voulez. Avec quelque chose à boire. Toujours si vous voulez.
Une chaise, ça permet de se lever plus vite en cas d'urgence. Merci pour la boisson, je veux bien. Ça te dérange si je me fais livrer à dîner?
Non, non, comme vous voulez. Une bière, ça vous va?
Pas d'alcool. De l'eau, ça ira très bien.
Ok, je reviens. Plus pro, tu meurs. J'enlève mon manteau et mes chaussures, puis pars d'abord en direction de la salle d'eau. J'ouvre le placard à médicaments et y attrape un somnifère. Une fois dans la cuisine, je le fais tomber dans un verre que je remplis d'eau. Je reviens vers lui. Mon cœur s'accélère. L'appréhension monte. S'il se rend compte de quelque chose, la haine risque de me faire regretter mon geste et, étant donné l'énergumène, il y a fort à parier là-dessus. Je lui tends le verre avec une assurance feinte. Tenez, je vais voir ce que je peux vous trouver de confortable pour vous installer.
Merci.
Je vais dans le salon pendant qu'il avale les premières gorgées. J'y choisis un fauteuil imposant que je fais glisser dans les couloirs. Lorsque je reviens, il est appuyé contre un buffet, le dos penché en avant. Là encore, je cache mon soulagement.
Qu'est-ce que tu m'as fait boire ?
Je suis désolé, je dois aller quelque part. Asseyez-vous là-dedans.
À quoi tu joues ? Je risque ta vie.
Son état de faiblesse le force à accepter mon aide. Il passe un bras par-dessus mes épaules pour se traîner jusqu'au fauteuil. Je me rhabille pour sortir. Le dos tourné, je l'entends prononcer.
Milas.
Je me retourne. Sa tête est penchée en avant, son bras droit tient tout juste en équilibre pour lui permettre d'activer son communicateur. Je m'exclame. Non, non ! Je me précipite vers lui pour le lui extraire de l'oreille. Paniqué, je cherche un moyen d'interrompre l'appel quand mes yeux se posent sur le verre. L'eau est à moitié renversée sur le buffet, mais il en reste assez pour y plonger l'oreillette. Léon s'effondre dans le fauteuil. Je sors en hâte.